Maintenant, parlons transport. Ménageons nos transports, mais ne les ménageons pas. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Catherine Houde. Bonjour, Mme Houde. Comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'intermède musical, fort agréable.
Ça me fait plaisir. Vous êtes chef de la défense des droits à la Fondation INCA. Et cette semaine, c'est une semaine qui est importante pour les droits des personnes qui vivent, entre autres, avec un handicap visuel. C'est une semaine qui est consacrée à l'accessibilité des transports.
C'est exact. En fait, c'est la première année qu'on le fait officiellement. Donc, c'est une semaine nationale, donc partout au Canada, chez INCA, qui est dédiée à l'accessibilité des transports. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'on se rend compte avec les années que c'est peut-être encore, malheureusement, le plus grand obstacle ou à tout le moins un des plus grands obstacles qui demeure pour les personnes qui ont une limitation visuelle.
Oui, tout à fait. Il y a l'obstacle numérique, je dirais, mais sortir de chez soi puis d'aller du point A au point B, là, c'est souvent ça qui nous manque.
Mais c'est exact, mais vous savez, la campagne prend tous ses volets, dans le sens où on peut parler, quand on parle de la campagne nationale sur les transports, par exemple, de l'accessibilité du site web de la société de transport en question, pour être en mesure de, par exemple, savoir quels sont les autobus, quels sont les trajets, mais on peut aussi parler, bien sûr, de l'accessibilité physique, donc, par exemple, de la signalisation accessible ou non dans les stations de métro, d'être en mesure de trouver un arrêt d'autobus physiquement, de savoir qu'on va embarquer dans le bon autobus. Donc, c'est vraiment toutes ces revendications-là qu'on veut mettre de l'avant pour informer et sensibiliser le grand public au fait que les personnes aveugles vivent toujours ces défis-là, mais aussi, bien entendu, interpeller les différents
les intervenants, oui, les décideurs. Votre campagne, votre semaine, c'est cette semaine du 20 au 24 juin. Ça a commencé tout à l'heure. À peine il y a quelques minutes, vous aviez une assemblée publique, une sorte de forum qui était ouvert à tous. Ça vient juste de se terminer, je pense bien.
Bien, c'est exact. Je sors juste de ça. Donc, oui. Il y avait quand même beaucoup de gens. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est bien sûr, nous, on met de l'avant des revendications, des difficultés que l'on connaît. Mais on veut s'assurer aussi d'interpeller les gens de la communauté pour être en accord avec les difficultés que vivent les différents groupes. Hein, parce que, bien sûr, comme vous le savez, on est tous uniques. Il y a aussi les personnes qui sont en basse vision, les personnes qui ne voient pas du tout. Donc, c'est vraiment de s'assurer que de par cette semaine-là, qui par ailleurs est modulée d'une région à l'autre du Canada, là, selon ce qu'on rencontre, c'est nous de s'assurer qu'on est vraiment en accord avec les besoins des gens.
Comme ça, à chaud, à la sortie de l'Assemblée à laquelle vous participiez là, il y a à peine quelques minutes, c'est quoi le courant qui a passé? Qu'est-ce qui en ressort de cette Assemblée?
Bien, sans surprise, un grand, grand besoin, un grand, grand manque, je dirais, c'est l'éducation et la sensibilisation des employés des sociétés de transport aux enjeux que vivent les personnes ayant une perte de vision. Et souvent aussi les personnes qui vivent avec une perte de vision, mais qui est peut-être invisible, qui parfois vont poser une question qui peut sembler, de prime abord, peut-être un peu idiote, mais qui pourtant répond à un besoin. Puis en ce sens-là, il y a un grand manque d'éducation.
Oui, si j'ai pas ma canne blanche et que je suis dans une situation de demander un renseignement à quelqu'un, souvent il va simplement répondre là. Si je lui demande où est telle chose, où est la distributrice de billets, où est la sortie, il va faire un geste que je vais peut-être voir, puis il va dire là. Mais là, pour nous, ça veut rien dire, hein, on le sait.
Il y a ça, puis de notre côté, je pense que tu sais, il y a des gens qui me disaient, par exemple, qu'ils ne voyaient pas le numéro du bus, puis ils se faisaient répondre par des gens, c'est pas écrit assez gros. Justement,
la réponse est oui, c'est pas écrit assez gros.
C'est ça, exactement. Donc, puis je pense que c'est vraiment pas de la mauvaise foi. C'est évidemment pour les gens quand on voit bien, mais bien sûr que c'est assez gros, mais quand on le voit pas, puis il y a tout un défi, bien sûr, avec l'éclairage. L'ajustement d'un éclairage à un autre qui peut prendre un petit peu de temps, puis le risque de la foule, évidemment, le mouvement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Tu sais, il y a beaucoup, moi, ce que je retiens, malheureusement, encore de stress et d'anxiété en lien avec l'enjeu du transport pour les personnes aveugles.
Oui, c'est ce qui est souvent, pour une personne voyante, pris pour acquise. Pour nous, c'est comme une grosse partie de la journée, c'est simplement de se rendre là où on doit se rendre. Et c'est en soi souvent un parcours du combattant, je dirais. Vous avez souligné cependant qu'il y a certaines villes au Canada qui se distinguent, qui sont des exemples à suivre.
Ben, écoutez, notamment Vancouver, hein, très célèbre parce que déjà, moi, je suis allée il y a 10 ans, et il y a 10 ans, pratiquement tous les coins de rue étaient équipés de feux sonores. Hein, on ne voit pas ça ici encore. Mais autre que ça, dans les transports, ils sont en train d'ajouter des indications tactiles et braille partout aux différents arrêts d'autobus pour être en mesure de localiser l'arrêt, être en mesure aussi de lire l'horaire, par exemple en braille en gros caractère sur le moment, et même un service d'assistance dans le SkyTrain, qui est un petit peu l'équivalent de notre métro. Donc, si une personne est désorientée, a besoin d'être guidée, il y a un numéro qui est peu appelé pour être guidé. Et dans le train, des indications pour dire, par exemple, quand les portes vont ouvrir et où. Donc, on s'entend qu'on n'est pas tout à fait au même niveau.
Oui, bien ça, c'est vraiment, c'est premier de classe. Vous mentionnez également Sault-Sainte-Marie. Je ne sais pas si c'est un endroit que vous avez eu l'occasion de visiter.
Non, pas celui-là par ailleurs, effectivement. C'est une localité, évidemment, un petit peu plus petite que,
oui,
que Vancouver, mais qui demeure notamment un exemple.
Un exemple, oui, parce que souvent on pense à transport, on va penser grande ville, mais il y a aussi des enjeux tout à fait dans des localités de plus petite dimension, où là aussi l'usage de l'automobile est comme universel et parfois même les trottoirs sont inexistants. Comment les gens peuvent s'impliquer? Parce que maintenant, si on voit qu'il y a des besoins, que c'est inégal d'un système de transport à l'autre, comment est-ce que la Fondation INSEA peut aider les gens à faire bouger des choses?
Bien, déjà, pour ce qui est de cette semaine, nous, évidemment, on a créé une lettre pour interpeller nos différentes instances et on invite les gens, s'ils le veulent, elle sera diffusée, à la personnaliser, à l'envoyer aux élus de leur région, parce qu'évidemment, hein, le but, c'est que cet événement-là ne reste pas qu'à Montréal. Comme vous le disiez, là, on veut interpeller des régions où, malheureusement encore, le transport collectif est perçu comme une issue de secours. Et je pense que pour tout le monde en général, mais surtout pour les personnes aveugles, c'est ce qu'on veut éviter. Ils peuvent bien sûr diffuser les différents communiqués sur les réseaux sociaux qu'on va partager, parce que le but cette année, comme c'est la première année, c'est beaucoup aussi d'informer, hein, un public le plus large possible de ce qu'on vit. Notamment, on a eu la chance de publier une lettre ouverte dans le Journal de Montréal,
okay,
afin de nous aider à à faire voir la campagne, bien sûr. Et tout ça quand même pour mentionner que même si c'est tout au long d'une semaine, les gens peuvent continuer ces actions-là quand même tout au long de l'année. Et je les invite surtout à quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si, par exemple, ils montent dans un autobus où les annonces vocales ne fonctionnent pas, si c'est disponible dans leur région notamment, de prendre le temps d'écrire, de téléphoner à la société de transport. C'est souvent, on dit que ça se règle pas, mais s'ils sont pas informés, je veux dire...
Oui, c'est sûr que si on se fait pas entendre, personne ne va nous écouter. On peut dire ça de cette manière-là. Pardon, vous cherchez des ambassadeurs. Quels vont être leurs rôles?
En fait, c'est des ambassadeurs. C'est plus large que la campagne transport.
D'accord.
C'est vraiment le programme de défense des droits d'INCA est à la recherche d'ambassadeurs, de gens qui ont envie de s'engager, hein, à leur manière. Donc, c'est assez, comment dire, dépendamment aussi des intérêts et des disponibilités des gens. Mais ce qu'on cherche, c'est des gens dans toutes les régions du Québec qui vont pouvoir nous aider justement à interpeller différentes instances ou à aller dans leur quartier, par exemple pour parler aux commerçants, pour faire de la sensibilisation, parce que ce qu'on voit, on en cherche aussi à Montréal, mais c'est que justement, on est beaucoup dans la région de Montréal, donc on cherche vraiment des gens pour faire rayonner le programme de défense des droits de l'INCA, mais partout au Québec, c'est vraiment notre but, là.
Donc, des gens qui peuvent, dans leur milieu, veulent intervenir ou veulent que les choses changent, ben ils,
exact,
peuvent s'appuyer sur la fondation de l'INCA pour avoir des ressources ou des façons de faire ou des choses qui ont été éprouvées ailleurs, là, qui peuvent permettre que chez eux, les choses puissent aller dans le bon sens. L'INCA est en fait, en 2022, à un carrefour. Vous entreprenez, je dirais, un grand travail de mobilisation pour préparer un plan stratégique, là, c'est vraiment large.
Exactement, oui, c'est ce qu'on fait depuis un moment déjà, puis on interpelle beaucoup les gens parce que quand même le but, Nous, on entreprend un nouveau plan stratégique dans le but qu'il réponde aux besoins des gens, hein, dans le but qu'on se concentre sur ce dont les gens ont réellement besoin. Donc, effectivement, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et puis, je pense que la défense des droits prend une grande place dans cette ère-là, dans le sens où c'est la base de tout. Hein, si on veut faire bouger les choses,
il faut se faire entendre, tout à fait. Ben, Madame Hood, je vous remercie. Madame Catherine Hood, vous êtes chef de la défense des droits au programme francophone de la Fondation INCA. Alors, on va parler de transport toute la semaine, mais on va en parler aussi toute l'année.
Ben, merci à vous.
Merci. À bientôt.